On a des valeurs qui sont héritées de l'histoire, qui nous font différents de toutes les nations du monde.
Le Roquefort.
Le Roquefort, vous le savez, est un fromage fabriqué exclusivement de lait de brebis, non écrémé, produit dans des régions bien délimitées et affiné ensuite dans les caves souterraines de Roquefort.
En 1787, Chaptal, en visite sur les Causses, ne voyait guère de différence entre les manières qu'on y avait de préparer le fromage et celles qui avaient cours ailleurs. Il est vrai que la France n'était pas encore le pays des fromages qu'elle allait devenir. C'est la Révolution, en faisant table rase du passé, qui permet la réorganisation des méthodes jusque-là en vigueur. Tandis que dans l'Aveyron et ses environs, la sophistication et la capitalisation de la production sacrent le Roquefort comme un fromage de premier rang. Au long du 19e, il se répand dans le Midi languedocien et méditerranéen et à Paris et devient une richesse ambassadrice de la France. Un second tournant est pris après la paix de 1918. Le marché a considérablement changé. Il aurait suffi de peu pour que le bleu danois ou le roquefort au lait de vache l'emporte. Au défi économique est alors apporté une réponse juridique. Le roquefort est le premier fromage à avoir obtenu une appellation d'origine dès 1925. La délimitation des zones de ramassage et de production, la formalisation de la fabrication, s'accompagne à partir de ce moment de tout un discours culturel. Le sol, le sous-sol et le ciel, tout aurait prédisposé de toute éternité à l'émergence d'un produit d'exception. Le roi Charles VI, déjà, mais Charlemagne, bien sûr, avant, l'aurait déjà repéré. En réalité, la production du Roquefort est née vraiment au XIXe siècle et sa tradition, comme tant d'autres, au XXe siècle.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Sylvie Vabre, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui a publié récemment aux presses universitaires de Rennes, conjointe avec les presses universitaires François Rabelais, un sacre du Roquefort. C'est pas injurieux de vous qualifier d'historienne du fromage.
Pas du tout.
Mais vous aimez bien dire aussi, je suis d'abord 19e-iste.
Tout à fait. Je suis une spécialiste de l'histoire économique du 19e siècle, histoire des entreprises, mais aussi histoire de l'alimentation.
Mais je voulais vous questionner, en tant que géographe, vous devez l'être un peu. Et puis vous avez gardé les brebis, vous, dans votre jeunesse, non?
Tout à fait. Dans les monts de la Cône, je ne renie rien.
Dans les monts de la Cône, dans l'Aveyron. Qu'est-ce que ça a de particulier, les causses sous lesquelles on va produire le roquefort? Vous dites, il y a des bois de sapin dont on peut faire des caisses à savon, mais aussi bien des Stradivarius. Ça n'a rien d'extraordinaire, les causses au-dessus de Roquefort.
Non, rien. Sauf qu'il se trouve là une communauté, un groupe de personnes qui sait travailler depuis des siècles un produit.
Depuis des siècles, la race de brebis, l'arzac, c'est si vieux que ça?
Non, l'arzac était présente au 19e siècle, elle l'était aussi au 18e siècle, et puis elle s'est transformée, elle est devenue une race de la Cône, et c'est aujourd'hui la brebis de la Cône.
Oui, vous voyez, 18e, 19e siècle, c'est là qu'est la bascule. Au 18e siècle, Diderot trouvait des vertus au Roquefort que son camarade Chaptal ne voyait pas, lui.
Si, tout à fait. Alors, Diderot trouvait que c'était vraiment le meilleur fromage d'Europe. Chaptal appréciait le Roquefort, mais il disait qu'il fallait vraiment venir à Roquefort pour déguster un très bon Roquefort.
Alors, allons à Roquefort. Alors, je vous propose une curiosité qui va nous accompagner tout au long de cette émission. C'est un reportage de Radio Toulouse. Radio Toulouse est née en 1925, comme l'appellation d'origine du Roquefort, et Radio Toulouse inventait des reportages touristiques qui étaient en fait des publi-reportages. Vous savez, quand une radio se déplace, souvent c'est tout frais payé. Et du coup, aux opérateurs, à leur matériel, il y avait même un car pour transporter l'équipe de Radio Toulouse. Les caves sont grandes ouvertes. Reportage qui date de 1933.
Tirez-vous bien. Mes chers auditeurs, vous allez nous permettre de descendre à la cave. Il arrive par l'ouverture un froid glaçant.
Fermez-vous par-dessus.
Oui, fermez-vous par-dessus. Attention.
Tournez à droite.
Mais pourquoi mit-on ces fromages dans les caves souterraines?
Parce que les caves de Roquefort réalisent seules au monde deux conditions indispensables. Elles ont le degré d'humidité voulu pour le développement du Penicillium glaucum et une température qui se rapproche de 5 degrés dans les bonnes caves comme celles où nous sommes. Ce sont les conditions optimales pour la bonne maturation des fromages.
Les propriétés naturelles sont telles que, nulle part ailleurs, soit dans des grottes que l'on disait semblables, soit par des procédés artificiels, on a pu obtenir le résultat que nous avons ici sans le secours d'une seule machine. Le courant d'air est si puissant qu'il renouvelle entièrement, plusieurs fois par jour, l'air des caves, ce qui représente des centaines de milliers de mètres cubes.
Mais d'où vient donc cet air? Il sort bien quelque part.
Il a pour origine l'immense éboulis au pied duquel est bâti le village. Éboulis fissuré, crevassé, d'une extraordinaire porosité, dont l'exposition, l'orientation, l'inclinaison et l'infrastructure réalisent un ensemble de conditions pour permettre au ferment le travail particulier qui a donné au fromage de Roquefort des qualités inégalables.
Il feint bien l'étonnement, le journaliste qui a été envoyé, tout frais payé, j'insiste, à Roquefort. Il faut que je dise à nos auditeurs que c'est grâce à l'habileté de Ronan Mahé, technicien malin de cette maison, qu'on a pu restaurer à temps cette émission de 1933 qui, au départ, quand on l'a retrouvée, était passablement détériorée. C'est pas le cas des archives de Roquefort qui sont conservées, elles aussi, dans les caves.
Alors, elles ont été conservées pendant longtemps dans les caves, effectivement, jusqu'à ce qu'en 1980, la société des caves, Roquefort Société, fasse un don aux archives départementales de Rodez, où elles se trouvent maintenant conservées, toujours dans de bonnes conditions, mais elles ont toujours gardé l'odeur du fromage.
Que vous avez retrouvé donc en ouvrant les portes à Rodez.
Bien sûr.
Comme quand vous gardiez les brebis.
Ah non, quand on garde les brebis, ce n'est pas l'odeur du fromage. Ah. Par contre, quand on ouvre un livre, un livre de comptes de la Société des Caves, qui a passé peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans dans les caves, ben on a une bonne odeur.
Le village-usine de Roquefort que vous allez nous décrire au 19e siècle, il se repère par l'odeur.
Oui. Tout à fait, il sent le fromage, puisque de toute façon les courants d'air parcourent les caves, ressortent, et donc le village embaume le fromage jusqu'à une période très récente. On sentait le Roquefort dès que l'on arrivait dans le village.
Et il y a une autre caractéristique du village-usine de Roquefort, c'est la présence de jeunes femmes venues de l'extérieur.
Tout à fait, parce que Roquefort en fait est un petit village-rue, et à la saison... on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre dans les caves. Et donc, toutes les jeunes filles alentour, généralement, se faisaient embaucher dans le village par les affineurs.
Et on les appelle les cabanières, pourquoi? Parce qu'il y a une cabane qui les abrite.
Voilà, parce qu'elles gardaient les cabanes au point de départ.
Et les là, cabanes,
elles sont de petites cabanes qui étaient aménagées à l'entrée des caves, hein, puisque le sous-sol a été largement aménagé.
Et du sous-sol monte, on est toujours dans le reportage de Radio Toulouse, quelque chose qui rappelle les nymphes de l'Antiquité.
Tiens, un chant de cabanière dans le lointain, écoutons.
Bien, voici justement un groupe de cabanières. Elles travaillent en chantant selon leur habitude.
Et compliments à la cabanière pour sa bonne mine.
Merci, monsieur.
Alors, madame, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces fromages?
Les fromages qui sont blancs, monsieur, sont ceux qui viennent d'être descendus du Saloise. La mousse blanche, quelquefois rougeâtre, qui recouvre le fromage à fin d'affinage, les campagnes qui chantaient tout à l'heure et que vous voyez là-bas, au fond, tenant d'une main un couteau, un fromage, et de l'autre, un couteau racloir, sont en train d'enlever cette mousse. Quant à la feuille de papier d'étain, elle recouvre les fromages mûrs que l'on va entreposer dans les salles frigorifiques de conservation en attendant la vente.
D'Occitan, bien sûr, on n'est pas dans un public reportage pour rien.
Il me semble bien, mais vous savez que déjà Julien Turgan en 1860 était venu à Roquefort et avait été séduit par le chant des cabanières au fond des caves.
Oui, mais enfin, les cabanières, c'est des fortes femmes aussi.
Oui.
On les a vues en grève.
Aussi, oui, elles sont en grève. Bon, au début du XXe siècle, ce qui reste quand même, somme toute, raisonnable.
Alors, justement, il faut que vous nous racontiez le long XIXe siècle qui nous amène à cette grève de 1907 et puis à la présentation d'un fromage très sophistiqué dès cette époque. Tout ça s'est fait avec l'appui des banques.
Alors, au point de départ, effectivement, il y a, je pense, me semble-t-il, j'ai démontré dans cette thèse, un grand apport de la Banque Durand de Montpellier.
Votre thèse a eu le prix du Crédit Agricole, c'est pas pour rien. Oui, alors.
Voilà. Et donc, la Banque Durand de Montpellier a investi à Roquefort dans les années 1820 et y est restée jusqu'en 1854 et a apporté au Roquefort, aux techniques capitalistiques de Roquefort, je pense, beaucoup de connaissances.
C'est pas cette banque qui a aidé le dénommé Rigal à tenter de capter la totalité de l'affinage vers le milieu
tout
du
à fait,
19e
tout à fait.
Siècle.
En 1839, un ami de Montpellier, puisqu'ils étaient tous deux dans une affaire qui contrôlait les Salins du Midi, ils ont voulu reconstruire la même affaire à Roquefort.
Mais les concurrents de Rigal vont bouter dehors Rigal, enfin le nom de Rigal continue d'exister,
oui, mais ce n'est pas la même
très
famille,
fortement, mais ce n'est pas la même famille. Ses concurrents victorieux vont s'unir à leur tour et constituer 1851 une société civile.
Oui, toujours avec Durand, hein, parce que ouais. le grand va s'associer avec les petits et ils vont faire finalement une affaire qui marche fort bien. Une société civile, c'est-à-dire très souple, dont les contrats sont renouvelés tous les deux ans et qui finalement perdure alors qu'elle était vouée, certes, à disparaître rapidement, mais...
En fait, de culture paysanne, on voit dans votre livre la photo du bureau du directeur général, monsieur Coupiac, avec un téléphone, un coffre-fort qui est le signe de la prospérité. Le Roquefort naît d'une réflexion et d'une pratique capitalistique très élaborée.
Ah, tout à fait, tout à fait. Ce sont des hommes qui ont envie de faire de l'argent, faire du profit, avec un produit, le Roquefort. Ils pensent que c'est vraiment le produit idéal, l'endroit idéal pour s'enrichir.
Un patron, dites-vous, n'est un patron que s'il arrive à peser sur les prix. C'est ça qui fait le signe de la qualité du dirigeant. C'est pour ça qu'on normalise les pains, qu'on étend le ramassage. On entendait tout à l'heure le public reportage de Radio Toulouse en 1933 dire qu'on n'entendait pas les machines. Bah si, il y a des machines.
Tout à fait, il y a des machines, bien sûr, bien sûr. Dès 1875, 74, 75, des machines que l'on appelle des piqueuses et des brosseuses sont introduites dans les caves pour piquer les fromages, permettre à l'air de circuler à l'intérieur des fromages de façon à ce que la moisissure, les veinures bleues se développent très rapidement. Et donc le fromage, à la place de passer 6 mois en cave, va ne passer que 3 mois. Vous rendez compte du gain incroyable que cela procure.
Et la réfrigération vient quand ?
Alors la réfrigération, elle vient plus tard, dans les années 1890-1900, où là on fait de grands travaux dans les caves, et elle est due à Paul Lebrou. C'est Paul Lebrou qui est un homme du coin, mais qui a fait des études à Paris et qui est ingénieur des arts et métiers, qui a travaillé aussi à l'Institut Pasteur au tout début, à l'ouverture de l'Institut Pasteur, et qui a adapté le froid artificiel et l'affinage, ou l'affinage au froid artificiel. En tous les cas, il a permis finalement au Roquefort d'être vendu tout au long de l'année et d'avoir un affinage que l'on puisse contrôler.
Parce que juste avant, Zola décrit dans Le Ventre de Paris la ronde des fromages, et c'est effrayant. Vous parlez des veines du Roquefort, mais lui, il y voit le signe de maladie honteuse. Les fromages, dit-il, puent dans la chaleur, s'amollissent, fument. Et alors, désolation des désolations, le Jérôme. Ah oui. De Gérard Mer dans les Vosges, dégage une telle infection que les mouches tournent autour. Heureusement, la réfrigération, la mécanisation, la modernisation sont venues et ça donne une ronde des fromages autrement présentable. Encore une autre curiosité, restaurée elle aussi par les soins de Jacques Sigal et de Ronan Mallet. Pourtant, elle date seulement de 1989 et d'une émission de Stéphane Collaro, mais ça vieillit vite, Stéphane Collaro. Les Rita Mitsuko avaient imaginé, ça n'a jamais été diffusé en disque, d'imiter de pasticher les demoiselles de Rochefort.
royaume de Creux, jumelle, née sous le signe du Livaro, de la boulette, d'Avène, du Roquefort et du Brie-de-Meaux. Nous vendons des fromages, du babybel au parmesan, travaillons sans relâche pour satisfaire tous nos clients.
Bonjour madame la marchande, pourrais-je avoir une part ou tout d'assez pour manger ce soir?
Mais bien sûr, cher monsieur, il est vraiment extra. Vous en serez ravi, car c'est du premier choix.
Moi, il me faudrait pour faire ma soirée fondue un assortiment de fromages de premier cru.
Je peux vous proposer un fondue à la gruyère qui, avec les mandales, font un mariage super.
Demandez mes fromages approchés, mademoiselle. Goûtez-moi ce vache, vous m'en direz des nouvelles.
Pas besoin d'être expert pour voir qu'il est pourri. Il bleu camembert, on le sent même ici.
Avec vos trombines, je viens de perdre des clients. La faute à ta frangine est un sec de fromage en fuyant.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Sylvie Vabre, historienne du Roquefort, un livre aux presses universitaires de Rennes et aux presses universitaires. François Rabelais, on va tout savoir de votre vie. Jeune, vous avez gardé les brebis. Ensuite, votre époux est un amateur des demoiselles de Roquefort.
Oui. Tout à fait, tout à fait. Il l'aura entendu avec plaisir, ce passage totalement inconnu.
Il sait pourquoi il était attiré par une historienne des fromages, mais qu'est-ce que c'est qu'une historienne des fromages, d'ailleurs? Je sais qu'il y a une société de la Révolution de 1848, il y a des colloques sur l'histoire des fromages.
Tout à fait.
Il pourrait y avoir une société des historiens des fromages.
Pas encore, mais pourquoi pas? Il y a d'ailleurs au mois d'octobre un colloque organisé par la Sopexa sur le fromage, produit gastronomique européen. Donc vous voyez, les fromages ont une histoire, ils dialoguent entre eux d'ailleurs, parce que pas un ne se ressemble. C'est normal, mais parce que justement...
C'est-à-dire que les fromages sont faits pour discuter entre eux?
En quelque sorte, c'est-à-dire que les différentes communautés qui créent ces fromages veillent à ce qu'ils ne ressemblent pas aux voisins, et donc tous les fromages sont différents. Il n'y a rien qu'à avoir un plateau de fromage.
Merci d'avoir cité une marque, hein, parce que nous sommes à l'ère du publi-reportage aujourd'hui. On va continuer tout à l'heure d'écouter le publi-reportage sur le Roquefort de Radio Toulouse. Vous avez travaillé aux archives de Roquefort Société.
Oui.
Alors, ça date de quand, Roquefort Société?
Roquefort Société est né en 1851 et a été d'emblée donc une grande entreprise qui a produit plus de 50% du Roquefort.
Et alors les autres?
Alors les autres existent, se renouvellent, ils n'existent pas dans la durée. Alors il faut attendre le XXe siècle pour avoir vraiment une entreprise dans la durée. Et donc Roquefort Société a conservé ses archives et a eu la bonne idée de les verser aux archives départementales.
En 1920, c'est le retour à la paix. On a laissé le Roquefort, on n'a pas parlé de la récession des années 1890, des difficultés de la Première Guerre. On a laissé le Roquefort relativement installé, moderne, commençant à se répandre par le réseau de ses représentants jusqu'à Paris et jusqu'à l'étranger. Le retour à la paix ne signifie pas un retour aux années d'avant-guerre. Il y a une grande recomposition des marchés. Vous expliquez que le bleu danois, par exemple, et le Roquefort au lait de vache, ça a failli tout balayer?
Oui, oui, oui. Enfin, en ce qui concerne les marchés internationaux, puisque à Roquefort, on consacrait à peu près 25% de la production à l'exportation. Et donc, les marchés internationaux étaient très importants. Et les Danois ont appris à faire du fromage que l'on appelle aujourd'hui bleu, façon Roquefort, et qu'ils ont vendu et qu'ils vendaient bien en Grande-Bretagne notamment, et dans tous les pays du nord de l'Europe.
Alors là, Roquefort Société aurait pu chercher à réagir seul, et sur des principes qui étaient les siens, capitalistiques. Mais une autre solution s'est dégagée, née de l'adaptation d'une formule destinée au milieu viticole, l'appellation d'origine. Il y a une loi en 1919 sur ce sujet. Et une association naît entre la grande marque capitalistique et les autres producteurs, sous l'ombrelle de l'appellation d'origine.
Producteur de lait et industriel de Roquefort, également intéressé à la défense de l'appellation Roquefort et à l'amélioration de la qualité du produit, se sont mis d'accord pour organiser en commun la répression de la fraude et régulariser le marché du lait par un partage souple et équitable du produit de la vente des fromages. D'autre part, il a été créé une marque syndicale, le label, apposée en rouge sur l'estampille qui recouvre le fromage. Elle indique qu'il s'agit bien du véritable roquefort, fabriqué avec du pur lait de brebis et affiné par les industriels qui font partie de l'entente.
Appellation d'origine qui devient appellation d'origine contrôlée et qui ensuite devient une adaptation du droit européen avec l'AOP, l'appellation d'origine protégée. Réponse intelligente, dites-vous, parce que ça nécessite une délimitation du territoire, une formalisation de la fabrication.
Oui, tout à fait. Et puis c'est une réponse collective à un problème collectif qui n'est pas forcément, je dirais, qui porte pas forcément sur une grande société. Donc, ils ont répondu collectivement, comme ils le font d'ailleurs assez souvent quand il y a une grande crise à Roquefort. Les affineurs, au cours du 19e siècle et du 20e siècle, savent se regrouper et toute la profession sait se regrouper pour apporter une réponse quelque peu surprenante.
La réponse est apportée à un défi international. Je vous parle des années 20 là, et des années 30, parce que le marché donc se modifie. Et il y a aussi à l'horizon déjà le marché américain comme étant de première importance.
Le marché américain est très important. Dès les années 1860, la société vend, commercialise du Roquefort vers New York. Et New York est vraiment, représente 30% des exportations de la société des caves. Donc c'est un marché fondamental.
Si on vient à aujourd'hui, les marchés fondamentaux sont d'abord européens, l'Espagne, le Benelux, l'Angleterre, mais les États-Unis gardent beaucoup d'importance. Et quand, à la fin du précédent millénaire, je parle de 1999, les États-Unis entendent amener les Européens à lever les interdictions sur les importations de bœuf américain contenant des hormones en surtaxant le Roquefort, eh bien c'est une crise dont chacun a la mémoire.
Ce sont deux palettes prêtes pour les États-Unis. Je ne peux pas vous répondre, ce sont les dernières. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres informations.
En réalité, ceux qui risquent de souffrir le plus de ces droits de douane sont les producteurs de lait de brebis.
Je suis producteur de lait de brebis pour Roquefort, producteur tout à fait classique. Nous, bon, en Roquefort, on est brimé par les USA parce qu'ils ont mis des droits de douane à 100% de plus sur le Roquefort parce que l'Europe ne veut pas importer le bœuf aux hormones produit aux États-Unis. Donc il y a une rétorsion sur le Roquefort, le foie gras, etc. Et nous, on se dit, c'est quand même un comble. Le Roquefort qui est un produit de haut de gamme et même depuis quelques années, nous produisons moins en volume pour produire de la meilleure qualité. Dernièrement, il y a moins de 1000, nous venons de prendre une décision à l'unanimité de la filière de refuser tout OGM dans l'alimentation. Donc on essaie de produire le mieux possible. Et à ce moment-là, on voit McDo qui vient nous vendre sa bouffe entre guillemets, devant la maison. On se dit, bon, là, c'était l'endroit idéal pour faire une manifestation.
Là-bas, si j'y suis, France Inter, ça doit être un disciple de José Bové. Alors c'est très étrange. Le milieu a été complètement renouvelé aussi par l'expérience du Larzac, par l'arrivée de nouveaux éleveurs. On pense à José Bové. Mais il faut que vous nous disiez quel est le rôle des éleveurs par rapport aux affineurs.
Alors, les éleveurs produisent le lait. Aujourd'hui, ils le donnent donc aux affineurs qui vont transformer en caillé et l'affiner dans les caves de Roquefort. Au 19e siècle, les éleveurs fabriquaient le caillé à la maison et livraient ensuite, depuis la ferme, dans les caves de Roquefort. Donc les éleveurs sont vraiment d'importance. La matière première est capitale. Forcément dans le Roquefort.
Et les éleveurs sont assurés, pensez-vous, d'avoir un revenu plus régulier que celui des éleveurs de porc?
Disons qu'il existe une confédération qui regroupe à la fois les affineurs et à la fois les éleveurs. Et donc, l'entente se fait autour de la table, ou la mésentente d'ailleurs, se fait autour de la table, et on arrive toujours finalement à une discussion, à une solution. Alors les éleveurs vont me dire qu'effectivement ils ne gagnent pas assez, certes. Mais au regard de certaines autres filières, effectivement, porcine ou bovine, il y a quand même des différences.
Et s'il y a trop de lait de brebis?
Mais on essaie, comme l'on fait pour l'instant, on essaie de trouver d'autres produits, en s'inspirant toujours du passé. On essaie de trouver d'autres produits, comme des pérailles, etc., qui permettent d'utiliser le lait de brebis de manière différente.
Enfin, à un moment, les gens de Roquefort ont produit de la feta grecque, mais Dieu merci, les réglementations européennes qui délimitent la feta ont mis le holà. Mais on peut imaginer la naissance d'autres marques, de sous-marques, d'autant que la grande distribution est devenue maintenant l'interlocuteur numéro un.
Le Roquefort, pourtant affiné dans les mêmes caves, va se retrouver sous une multitude de marques de grande distribution. Cette portion se retrouvera sous une marque bon marché Super U. Sur la chaîne à côté, la barquette partira dans les rayons d'une supérette appartenant à Carrefour. Si certains industriels de Roquefort ont trouvé un bon moyen d'écouler leur fromage grâce à la grande distribution, le Roquefort reste en perte de vitesse. Alors le groupe Société a trouvé une alternative. Il a inventé son propre concurrent, un nouveau produit, le Loupérac bleu. Il ressemble au Roquefort à s'y tromper. C'est un bleu, c'est du brebis. Son goût est beaucoup plus crémeux, il a moins de caractère, il sera plus facile à vendre. Il n'a pas d'appellation d'origine, il n'est pas au lait cru, donc il coûte moins cher à fabriquer.
Alors ces sous-marques qui sont soit inventées par Société, soit inventées par la grande distribution, permettent de décliner des sous-Roquefort ?
Des bleus de brebis, on va dire. Hein, ça s'appelle des bleus de brebis, c'est-à-dire un fromage qui ressemble au Roquefort, mais qui n'en est pas tout à fait un, puisqu'il est... Il n'est peut-être d'ailleurs pas affiné à Roquefort, parce qu'en fait, il faut savoir que surtout
le
Larzac...
On va savoir des choses, là,
voilà,
peu à peu.
Surtout le Larzac, il y a quantité de cavités qui ont été exploitées depuis le Moyen-Âge, et où l'on fabriquait des Roqueforts. Or, aujourd'hui, avec l'AOC, on ne peut plus, elle ne fonctionne plus. Donc, c'est une autre façon aussi d'utiliser... Je dirais les atouts d'Écosse.
Vous ne nous avez pas dit que Société avait été rachetée par un immense groupe ?
Bien sûr, oui, le groupe Lactalis, oui. Premier
fromager
mondial.
Les archives
mondial.
Sont passées aux archives départementales, parce que vous pensez qu'il doit avoir d'autres soucis que les archives, Lactalis, non ?
Oui, bien sûr, oui, c'est sûr, c'est sûr.
Mais il faut savoir aussi, allez, ça va être la dernière confidence, mais vous détaillez un peu la chose, que le goût du Roquefort que nous connaissons, je parle des meilleurs, hein, ça n'a pas grand-chose à voir avec le goût du Roquefort tel que l'appréciait Diderot à la fin du XVIIIe siècle ou même tel qu'il était au début du XIXe siècle.
Oui, je pense que nous serions surpris, mais c'est quand même... Le goût a changé, la société a changé, donc le Roquefort s'est adapté particulièrement à tous les moments.
Mais en quoi nous serions surpris ? C'était beaucoup plus piquant ?
Beaucoup plus piquant, je pense, beaucoup plus salé. Affinée de manière différente. Au début du XIXe siècle, la pâte ne devait pas être très blanche. Elle devait être certainement un peu rosée pour les meilleurs roqueforts, parfois un peu grise pour les plus mauvais. Et progressivement, effectivement, le roquefort a changé. Mais il reste toujours fabriqué avec du lait de brebis.
Chers auditeurs, je laisse le champ au troupeau de brebis.
Avec la collaboration de Radio Toulouse 1933, restaurée par les bons soins de Jacques Sigal et de Ronan Mahé, avec à la technique Kevin Pelot et pour la préparation Franck Olivard, Frédéric Martin et Ilinka Negulesco. C'était une émission consacrée au sacre du Roquefort, pour reprendre le titre de votre livre, Sylvie Vabre, aux presses universitaires de Rennes et aux presses universitaires François Rabelais.